Chapitre 5. Crise d'effectifs britanniques. Au plus fort de la crise d'effectifs qui se fit cruellement sentir dans les dernières semaines de la guerre, l'armée française, après le chemin des Dames, perte de 160 000 hommes, était particulièrement éprouvée. D'autant plus que Foch, renonçant enfin à attendre l'Allemand dans les Flandres, se décida à le harasser. Nos pertes étaient infiniment plus graves que celles des Anglais, qui avaient encore des réserves énormes sur leur territoire, et qui, au lieu d'en faire usage, avaient trouvé plus simple de diminuer leurs combattants quand il aurait fallu les accroître à tout prix. Le chef de l'État attendait, pour un suprême effort, que la situation fût désespérée. Les Anglais, dans le désarroi d'un échec qui venait de leur coûter 200 000 hommes, avaient pris l'inattendue résolution de supprimer 9 divisions qu'ils pouvaient remettre sur pied et se refusaient à revenir sur une décision si injustifiable. Mais je ne pouvais me résigner à compromettre l'issue de ces terribles journées. Déjà, j'avais pu amener M. Lord George et même Sir Douglas Haig à accepter l'extension du front anglais, ce à quoi ils s'étaient violemment refusés sous les ministères précédents. La question fut engagée peu de temps avant mon arrivée au ministère à la fin de 1917, lorsqu'il fut découvert que les Anglais n'occupaient pas toute l'étendue du front qui leur était attribué. Pour tout dire, je dois reconnaître qu'en ce qui concerne les divisions anglaises supprimées, je ne me bornais pas à laisser leur chance aux réclamations de Foch qui me paraissaient d'une vigueur insuffisante. Puisqu'on me refusait les contingents américains pour boucher l'hiatus des divisions britanniques, je résolus de m'adresser directement aux Britanniques eux-mêmes, à qui je supposais plus de ressources d'effectifs qu'ils n'en avaient sur le front. D'une lettre privée due à un officier supérieur français, je détache les passages suivants qui évoquent le souvenir de ce qui suivit. Dans le courant de 1917, nous basant sur des considérations mathématiques de longueur de front occupé, du nombre de divisions françaises et anglaises, des densités allemandes en face de chaque secteur, des pertes éprouvées depuis le début de la guerre, des ressources encore disponibles en France et en Angleterre, etc., nous demandions aux Anglais d'étendre leur front jusqu'à Berry-au-Bac. Violente résistance du maréchal Haig, qui menace de démissionner si on l'oblige à étendre d'un pouce le front qui s'étendait alors au sud jusque devant Saint-Quentin. On arrive ainsi, toujours discutant et sans rien obtenir, jusqu'à la conférence de Boulogne, 24-25 septembre 1917, à laquelle assistaient M. Lord George, M. Painlevé, les généraux Foch et Robertson. La question de l'extension du front britannique fut discutée à Boulogne, et M. Lord George y accepta, en principe, une extension du front anglais. Vous pensez bien que les mesures dilatoires n'étaient pas exclues. Nouvelle et violente crise du maréchal Haig, qui revient à ses menaces de démission. Nous continuons à discuter sans résultat. Il faut dire que le War Office et le GQG anglais sont absolument du même avis négatif sur la question et qu'on rencontre auprès du général Robertson le même accueil défavorable qu'auprès du maréchal Haig. En résumé, on discute mais on n'aboutit pas. Après votre arrivée au pouvoir, 17 novembre, les affaires marchent plus rondement et, de notre côté, on parle plus haut et plus énergiquement. On connaissait en Angleterre et au GQG anglais vos idées sur le sujet, car elles avaient été exposées au public anglais déjà même avant votre arrivée au pouvoir par Rippington, à la suite de la visite que ce dernier vous avait faite rue Franklin le 6 octobre 1917. Les Anglais, sentant que cette fois il va falloir s'exécuter, proposent alors de faire occuper le secteur tenu par la 3e armée française de Saint-Quentin à Barizis, en face du massif de Saint-Gobain, par une armée américaine, la 1e armée. Le général Pershing refuse. D'un autre côté, les Anglais nous informent qu'en aucun cas ils ne s'étendront jusqu'à Berry-au-Bac, et nous avons le sentiment bien net que si nous continuons à insister pour Berry-au-Bac, nous n'obtiendrons absolument rien. C'est donc sur la relève de la 3e armée française seule qu'il faut concentrer nos efforts. Ces derniers finissent par être couronnés de succès grâce à une pression exercée de Londres sur le maréchal Haig et due sans doute à la façon claire, énergique et précise avec laquelle vous vous étiez prononcé sur cette affaire auprès de M. Lord George. Bien à contre-cœur, le maréchal Haig se décide à accepter l'extension du front anglais de Saint-Quentin à Barizis, au sud de l'Oise, et la 1e armée anglaise, Gough, relève la 3e armée française, Humbert, du 10 au 20 janvier. Après cette relève, le front était réparti comme suit. Premièrement, 35 km aux Belges pour 12 divisions en ligne et en réserve. Deuxièmement, 200 km aux Anglais pour 61 divisions en ligne et en réserve, dont 2 divisions portugaises. Troisièmement, 530 km aux Français pour 99 divisions en ligne et en réserve. À la fin de mars, la défaite de l'armée britannique lui coûtait 200 000 hommes. Ce n'était pas pour remédier à une crise d'effectifs. 9 ou 10 divisions, les textes diffèrent, furent supprimées. M. Lloyd George, homme complexe dont l'astuce galloise savait revêtir tour à tour les aspects les plus divers, n'a pas toujours été l'homme intraitable de la légende. Il sait que la raison a ses heures, et quand le moment lui paraît venu, il ne refuse pas toujours de composer. J'ai le droit de parler ainsi, car en de périlleux débats, jamais deux hommes ne parurent plus près de s'entre-dévorer. Dans l'affaire de l'extension du front anglais, M. Lloyd George, qui, en Sir Douglas Haig, avait un adversaire sérieux, comprit très bien l'effort que la situation commandait. La paix ne lui vaut rien. C'est ce qui m'encouragea à l'aborder directement pour l'amener à obtenir du général anglais la reconstitution des 9 divisions supprimées. J'essayais donc tout simplement de le convaincre, comme j'aurais fait pour tout autre mortel, et il faut croire que je ne m'y pris pas trop mal, puisque ma tentative fut suivie de succès. À cet effet, j'adressai au premier ministre anglais la lettre suivante. 16 mai 1918, le président du Conseil ministre de la guerre à M. Lloyd George, Prime Minister, Londres. La bataille qui se déroule en France depuis le 21 mars dernier avait trouvé à son origine l'armée britannique forte de 57 divisions, récemment réduite à 9 bataillons, auxquels sont venus s'ajouter par la suite 2 divisions ramenées d'Italie et 2 divisions ramenées de Palestine, dont une encore en cours de débarquement. L'armée britannique en France devait donc comprendre à l'heure actuelle 61 divisions. Or, par suite des pertes subies depuis le début de l'offensive et par suite également de l'insuffisance en quantité des renforts envoyés du Royaume-Uni pour combler ces pertes, il a été jugé impossible par le haut commandement anglais de maintenir au chiffre précité le nombre des divisions britanniques en France. Ce nombre a, comme vous le savez, été diminué de 9 et il est par conséquent aujourd'hui de 59. Le maintien à ce chiffre des divisions anglaises en France, et a fortiori sa diminution, ferait porter presque tout le poids de la bataille à venir, qui, selon les probabilités, sera encore longue et sévère, sur les seules divisions françaises, et dans ces conditions, nous serions très rapidement obligés, en raison de pertes qui dépasseraient toutes nos prévisions les plus larges, de réduire le nombre de nos divisions. La gravité des circonstances ne vous échappe certainement pas, et il doit vous apparaître par suite, comme à nous-mêmes, que le seul moyen d'y parer est de maintenir par tous les moyens en votre pouvoir le chiffre de division anglaise à celui qui existait avant toute suppression, c'est-à-dire à 61. Pour obtenir ce résultat indispensable, je le répète, à une conduite victorieuse de la bataille actuelle, il faut de toute nécessité que le commandant britannique en chef sur le front de France reçoive du Royaume-Uni tous les renforts nécessaires. Or, les prévisions d'envoi de renforts établies par l'état-major britannique pour les mois de mai, juin et juillet établissent que 34 000 hommes, en moyenne, seront envoyés en France chaque mois. Vous serez comme moi d'avis que ce chiffre est totalement insuffisant, tant pour recompléter les divisions encore existantes que pour faire revivre les 9 divisions supprimées. Il est cependant de nécessité vitale, comme je l'ai exposé plus haut, que ce double résultat soit atteint le plus rapidement possible. Or, il nous apparaît qu'il peut l'être si on fait appel résolument et dans la plus large mesure aux ressources actuellement mobilisées à l'intérieur du Royaume-Uni. Il ressort en effet de la dernière situation établie par le War Office en date du 22 avril que le total des hommes mobilisés à l'intérieur du Royaume-Uni est de 1 284 819 hommes. Si, comme nous le reconnaissons, une grande partie de ces hommes n'est pas apte au service extérieur, il n'en demeure pas moins qu'à la date précitée, premièrement, les effectifs des troupes du Home Defense étaient de 171 565 hommes, deuxièmement, les effectifs des dépôts étaient de 389 016 hommes, troisièmement, les effectifs des travailleurs militaires étaient de 258 291 hommes. soit au total un réservoir de 818 872 hommes, auquel il faut ajouter celui des hommes se trouvant dans les hôpitaux à la même date et dans lesquels il sera possible de puiser au fur et à mesure des guérisons et qui s'élève à 317 582 hommes. Le seul obstacle à l'envoi en France de la majeure partie des hommes composant les trois premières catégories ci-dessus consiste dans le fait qu'ils appartiennent en général à des catégories autres que la catégorie A. Or, il vous apparaîtra certainement que tous les hommes de la catégorie B, hommes jugés aptes à défendre le Royaume-Uni en cas d'invasion, pourraient, en raison de la gravité de la crise actuelle, être sans exception envoyés se battre sur le front français. Cette mesure ne ferait d'ailleurs que correspondre à celle adoptée en France et qui nous fait envoyer au front nos hommes du service auxiliaire. Son application immédiate, rigoureuse et large dans le Royaume-Uni vous permettrait, j'en suis persuadé, de trouver les ressources nécessaires pour parer à la crise grave que nous traversons. Elle nous paraît, dans tous les cas, être la seule qui, dans les circonstances présentes, nous permette de sortir victorieusement de la plus redoutable et sans doute décisive épreuve que nous ayons affrontée depuis le début de cette guerre. Signé Georges Clémenceau. Cette lettre, suivie d'une pression incessante et tenace, produisit l'effet désiré. Les Anglais, après beaucoup de tergiversations, promirent de reconstituer les 9 divisions supprimées, et ils les reconstituèrent effectivement et progressivement du mois de mai au mois de septembre, en envoyant en France non seulement les hommes de la catégorie A, mais aussi ceux de la catégorie B. La vérité est que la distinction entre ces deux catégories ne répondait à aucune réalité de la guerre continentale. C'était une idée de marin. On peut voir par ce récit, appuyé d'un document officiel, que si je n'arrivais pas à recompléter nos effectifs par le secours des soldats américains, que leur chef refusait alors de mettre en mouvement sans que Foch se décidât à commander, je fus plus heureux avec les Anglais qui, ayant supprimé 9 divisions à la suite de l'échec de Gough, disposaient encore de réserves plus que suffisantes mais mal réparties dans des groupements à titre trompeur. Le document que je viens de publier montre que je n'étais pas incapable de discuter avec M. Lord George, puisqu'une lettre topique et modérée réussit à obtenir de l'état-major général anglais, en temps utile, la récupération des 9 divisions supprimées. Le nom de Foch ne s'est même pas trouvé sous ma plume dans cette lettre qui devrait être signée de lui. Pour moi, j'étais trop content de l'aider, même à son insu, au moment où il se vantait de ne tenir aucun compte d'instances auxquelles M. Lord George lui faisait bon accueil.